Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis le 21 janvier 1793, l'image du roi Louis XVI a été l'objet d'orientations historiographiques multiples, orientations souvent opposées, plus ou moins contrastées selon les cas. Roi martyr pour certains, complice de l'étranger pour d'autres, débonnaire et faible pour les uns, victime d'une idéologie meurtrière, source des totalitarismes pour les derniers, quoi qu'il en soit, rarement un personnage de notre histoire aura été l'objet d'autant de controverses et bien évidemment de contre-vérités. L'historien Jacques Bainville avait pour sa part des mots très durs à son égard. Bainville écrivit à la fin de sa vie « Louis XIV avait de l'intelligence et du caractère, Louis XV avait de l'intelligence et manquait de caractère, Louis XVI, avec toutes les vertus, avait une intelligence médiocre et il était indolent. On ne peut pas s'étonner que malgré les meilleures intentions du monde, il ait perdu la monarchie. » Alors Bainville disait-il vrai ? Quel fut le vrai visage de Louis XVI dans cette crise politique majeure de la fin du XVIIIe siècle ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, historien, vous avez publié plusieurs ouvrages, dont une biographie de Louis XIV, couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques, ainsi que par l'Académie française. C'est une biographie qui vient d'être rééditée dans la collection Tempus des éditions Perrin. Et c'est chez ce même éditeur, les éditions Perrin, que vous venez de publier une biographie tout aussi fouillée de Louis XVI. C'est la deuxième fois, Jean-Christian Petit-Fils, que je vous reçois au micro d'Un jour dans l'histoire. Nous avions évoqué la dernière fois le masque de fer, le grand mystère du masque de fer. Et c'est une émission que nos auditeurs peuvent découvrir en se rendant sur canalacadémie.com, plus précisément dans les archives de Canal Académie. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, votre biographie de Louis XVI est monumentale, elle est très fouillée, très volumineuse, elle atteint les 1000 pages, elle se lit parfaitement bien. Pourquoi un tel sujet ? Comment êtes-vous passé de Louis XIV à Louis XVI ? Et d'ailleurs, existe-t-il un lien entre votre biographie consacrée au roi Soleil et celle consacrée au roi martyr ?
Eh bien sûr, il y a un lien. C'est que j'ai écrit donc, la biographie de Louis XVI il y a une dizaine d'années. Et au-delà du portrait du roi, j'avais voulu montrer comment s'était constitué l'absolutisme, ce qu'on appelle très improprement l'absolutisme, qui en était la monarchie administrative, comment le roi, dans une société plurielle, avec une multitude de corps, d'états, une société très hiérarchisée, comment le roi, avec des moyens dérisoires, en s'appuyant sur quelques commissaires, quelques magistrats dévoués, était parvenu, en attirant les grands aussi à Versailles, était parvenu à constituer donc ce pouvoir, cette monarchie qui représentait bon an mal an, l'intérêt général, le bien commun. En jouant sur les rivalités ministérielles, en intégrant à sa propre personne, autour de sa propre personne, les fidélités des grands, les clients des ministres, comment il était arrivé à construire l'État. Tout simplement.
Parce qu'il y a chez Louis XIV une dynamique du pouvoir.
Il y a une dynamique du pouvoir. Et j'ai voulu montrer, au fond, le versant contraire, si vous voulez. Après la montée, nous avons la descente, nous avons la déconstruction de l'État, comme on dirait aujourd'hui, la décomposition de cet ancien régime, le délitement de l'État royal sous le règne de Louis XVI. Non pas que Louis XVI fut le principal responsable, mais c'est lui qui en a été la victime et c'est lui qui a supporté. Alors, comment les choses se sont passées ? Bien, d'abord, il faut voir que il y a une immense vague de réactions aristocratiques, réactions nobilières, qui est apparue dès la mort du règne, dès la mort de Louis XIV en 1715. Donc à la fin du règne, ça a commencé déjà un petit peu avant, mais enfin, vraiment, les choses apparaissent avec la Régence, bien entendu. Il y a une vague d'opposition. On veut prendre sa revanche sur cet absolutisme qui était très très relatif, très très mesuré. On veut prendre sa revanche sur ce pouvoir centralisateur. Et qui le veut, ce sont les hauts aristocrates qui sont à Versailles, qu'on a obligé à venir à s'installer à Versailles et qui veulent revenir à une sorte de monarchie patriarcale antérieure, en tout cas, à la monarchie, probablement peut-être à un système dérivé de la féodalité. En tout cas, on ne veut plus de cette monarchie autoritaire. Et donc, la violence de cette réaction aristocratique, elle a différentes causes. D'abord, sur le plan sociologique, les différentes noblesses, c'est-à-dire la noblesse d'épée, la noblesse de robe, et puis celle plus tardivement apparue, la noblesse de finance, se marient. Donc, par endogamie, constituent des familles très puissantes, riches, et qui ont tendance à s'opposer à la volonté du roi. Toute la haute noblesse de la fin du règne de Louis XVI, toute cette haute noblesse ne rêve qu'une chose, c'est de revenir en arrière. Que ce soit les Montmorency-Luxembourg, les La Rochefoucauld, les Pralins, les Daumont, les Béthune-Charost, les Uzès, les Luynes, tous les grands barons qui ont qui occupent des fonctions dans la maison royale, eh bien, sont opposés au fond au pouvoir royal.
Donc ils veulent une sorte de retour à un féodalisme.
En quelque sorte. Et ce qui est assez, donc ils par leur mariage avec la noblesse d'épée, avec la noblesse de robe, ils arrivent à constituer une sorte de front uni contre le pouvoir royal. Et ce qui est assez singulier et qui m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié ce règne de Louis XVI, c'est l'osmose étroite qu'il y a entre la philosophie des Lumières et la réaction aristocratique. Et cela, je dirais que les historiens n'ont pas tellement insisté sur ce point. Les aristocrates veulent défendre leurs privilèges et donc ont trouvé dans le système de Rousseau, dans le système des Lumières d'une façon générale, un moyen de une sorte de bélier contre le pouvoir royal. On va exalter les libertés, mais en réalité, on va exalter plus exactement la liberté, mais en réalité, on veut défendre les libertés, c'est-à-dire les privilèges. Et quantité de nobles, non seulement de grands aristocrates, mais aussi de petits nobles, comme Duval des Préménil, qui était un des chefs de file de l'opposition du Parlement de Paris, ou le comte d'Entraigues, plus tard qui sera un chef d'un réseau d'espionnage du comte de Provence, devenu Louis XVIII, eh bien ces gens ne rêvent que de retour à la féodalité, et lisent, sont des grands amis, des grands lecteurs de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est assez étrange, c'est assez singulier, mais il n'était pas évident du tout au départ que les Lumières conduisit à la modernité, en quelque sorte. On pouvait très bien revenir en arrière. Et on pense, finalement, quand on veut modifier les choses, quand on veut abattre un régime, on pense plutôt à ce qui passait avant plutôt que ce qui pourrait se passer après, parce qu'on n'a pas de notion linéaire du temps. On pense dans un système à la Vico, si vous voulez, où les choses peuvent revenir en arrière. Donc, les Lumières pouvaient participer de ce principe du retour à une belle monarchie patriarcale, des défenseurs des libertés, mais on n'avait pas du tout cette idée qu'on puisse accéder à la modernité. Et il y a une rupture qui interviendra en 88-89, dont on pourra parler.
C'est en quelque sorte, les Lumières sont une forme de contre-révolution.
Il y a un mariage, en tout cas, entre les Lumières et la contre-révolution. Je ne dis pas que les Lumières sont totalement imprégnées de contre-révolution, mais je dis qu'il y a une osmose entre les deux. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé. Et ce qui, en fait, donne une puissance assez extraordinaire à ce mouvement de réaction aristocratique auquel Louis XVI s'est trouvé confronté.
Alors, on connaît très bien la philosophie des Lumières. Hein. Elle est enseignée aujourd'hui dans tous les lycées de France. On connaît moins les mutations religieuses au XVIIIe siècle, et notamment le rôle du jansénisme dans l'opposition au roi. Pourriez-vous décrire ce rôle, l'importance du religieux au XVIIIe siècle ?
Alors, Le jansénisme a certainement été un des véhicules de la pensée de contestation contre le pouvoir royal. On est parti, vous savez, de la bulle Unigenitus en 1713, que le pouvoir avait voulu imposer, que Louis XV aussi a essayé d'imposer.
Qui était une condamnation du jansénisme, qui était une forme d'élitisme religieux.
Voilà, alors le jansénisme se marie avec le gallicanisme, très fortement, et au XVIIIe siècle, et s'imprime d'un courant qu'on appelle le richérisme, qui est une sorte de christianisme de la base. Et on veut que les évêques soient élus. Et tout cela va confluer vers la constitution civile du clergé, l'abbé Grégoire et d'autres qui donc écriront cette constitution civile du clergé. On apprend donc à lutter. Alors c'est vrai que la bulle Unigenitus est en soi assez choquante. Il y a des expressions qu'on interdit au peuple chrétien de lire la Bible en dehors des églises ou la Bible, une traduction de la Bible. Il y a vraiment des positions très rigides qui ont été prises par la papauté sous l'influence des jésuites au début du XVIIIe siècle. Et dans l'opposition à cette bulle Unigenitus, on trouve un certain nombre d'ordres comme les oratoriens, par exemple, qui sont choqués par les expressions de condamnation pontificale et qui vont marier la monarchie et cette conception autoritaire de la religion. Donc il va y avoir une sorte de constitution d'hostilité au pouvoir, au trône et à l'autel, en quelque sorte. Donc ça va être un des composants de ce mouvement de contestation très puissant qui va se développer, surtout à partir des années 1755, donc avant le règne de Louis XVI naît en 1754, donc et qui va marquer le règne de Louis XV, bien sûr.
Alors, il y a une grande idée dans votre ouvrage, c'est la remise en cause tout simplement de la thèse tocquevillienne sur l'absolutisme. C'est ce que je vous propose, Jean-Christian Petit-Fils, de voir après une première pause. À tout de suite.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
Christophe Dicques.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Christian Petit-Fils, historien, qui a été primé pour son livre consacré à Louis XIV, primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Et vous venez de publier, Jean-Christian Petit-Fils, une biographie monumentale, très volumineuse, consacrée au personnage qui termine la monarchie, qui est Louis XVI, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Alors, un des piliers de votre ouvrage, et je dirais une des thèses plutôt de votre ouvrage, c'est que vous remettez en cause la thèse développée par Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, qui est une thèse liée précisément à cette conception de l'absolutisme.
Voilà. J'ai été frappé par l'importance de cette réaction aristocratique, et non pas par ce développement apparent de l'absolutisme. Alors c'est vrai que les intendants donnent l'impression d'avoir pignon sur rue, de s'installer plus profondément en province, qu'il y a un certain nombre de corps administratifs qui se constituent d'inspection, de travaux publics, de ponts et chaussées. Donc on a l'impression vraiment que la monarchie administrative se développe. Et c'était une des thèses de Gaxot, montrant que l'administration française prend naissance au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV. Et tout cela est assez illusoire, parce que ces intendants, en réalité, adoptent le point de vue de leurs administrés plutôt que celui du pouvoir, donc et constituent plutôt des forces de centrifuge plutôt que de transmission des ordres de l'État. Et de sorte que devant cette immense poussée qui va se traduire, qui va aller bien au-delà de la fin de l'Ancien Régime, puisqu'on verra en 1790 la Constitution française, aussi bien sur le plan religieux, avec la Constitution civile du clergé, qu'avec les municipalités, le triomphe du principe électif. Toute la Constitution, en 1790, on est dans une société totalement émiettée et décentralisée. Eh bien, on voit donc cette poussée très très violente des forces privilégiées contre le pouvoir royal, de sorte que le pouvoir tombe non pas d'un excès de centralisation, comme le pensait Tocqueville, mais au contraire d'une extrême faiblesse étouffée par la coalition de tous les corps, par l'égoïsme des privilégiés. Et il n'y a donc pas continuité, comme l'affirmait Tocqueville, entre l'Ancien Régime et la Révolution. Alors, moi, j'ai une grande admiration pour Tocqueville. Je ne cherche pas à démolir, bien entendu, l'apport essentiel qu'a fait Tocqueville. Tocqueville, c'est un des rares historiens, avec Madame de Staël, par exemple, à avoir une approche conceptuelle de l'histoire. Et ça, c'est extrêmement riche, parce que au-delà de la simple anecdote, il nous permet de comprendre les grandes forces sociopolitiques qui animent la société française. Cela étant, je trouve qu'il y a une grande faiblesse dans son livre sur l'Ancien Régime et la Révolution. C'est la thèse centrale de cette continuité. Elle est vraie sur la longue durée. C'est-à-dire, si on passe de Louis XIV à Napoléon Bonaparte, assurément, il y a une continuité dans la centralisation. Mais entre-temps, de 1715 à 1790-91, jusqu'à la reprise en main par le pouvoir jacobin, il y a un effondrement de l'autorité de l'État et de l'État lui-même.
Donc Tocqueville surestime en quelque sorte le pouvoir absolu, un pouvoir absolu que vous décrivez dès les premières pages de votre ouvrage, qui était, je vous cite, borné de toutes parts, il y avait énormément de contre-pouvoirs, il y avait des garde-fous. Donc en plus de ces contre-pouvoirs, de ces garde-fous, il y a tout ce mouvement contre la monarchie que vous présentez.
Voilà, mais Tocqueville surestime aussi le système Louis XIVien. Et déjà, dans mon livre sur Louis XIV, j'ai montré l'extraordinaire fragilité du pouvoir royal face à ses corps et face déjà à une idéologie naissante d'opposition qu'on voit apparaître à la fin du règne avec Fénelon, avec Saint-Simon, avec toute la coterie des saints autour du duc de Bourgogne. Tout cela va s'amplifier au XVIIIe siècle. On a Boulainvilliers, on a le président de Montesquieu. Tous ces gens participent de peu ou prou d'une idéologie de remise en cause en essayant de développer la théorie des corps intermédiaires, en particulier de remise en cause du pouvoir royal et de l'autorité centrale.
Je vous cite encore une fois, vous dites que le pouvoir monarchique était trop moderne pour maintenir l'équilibre des forces, mais insuffisamment fort pour leur résister.
Voilà. C'est le problème, c'est que la Révolution va procéder, et là Tocqueville a raison, à la table rase, et à partir de la table rase, en effet, se construira un pouvoir infiniment plus fort que le pouvoir de l'Ancien Régime, que le pouvoir dit absolu.
À vous écouter, on a l'impression que la crise était politique, elle était sociale, elle était moins économique. Et d'ailleurs, vous consacrez plusieurs pages à l'état de la France en 1774, l'arrivée donc de Louis XVI au pouvoir. Vous rejetez absolument toutes les thèses mirabilistes qu'a pu présenter le XIXe siècle.
Alors, en fait, la Révolution française, c'est la conjonction de trois crises. Une crise de la longue durée qui est en effet cette crise sociopolitique qui prend sa source dans la noblesse. Il faut dire que le nombre des nobles est en forte diminution après à la mort de Louis XIV, à suite des guerres, notamment la guerre de succession d'Espagne. Les nobles étaient environ 220, 230 000 en France du temps de Louis XIV. Ils ne sont plus que 130, 150 000 sous Louis XV et Louis XVI. Et malgré les anoblissements, il y a donc une crise de la noblesse avec une aspiration l'aspiration pendant très longtemps de la bourgeoisie à monter, à accéder à cette noblesse, et non pas à constituer un corps autonome se dégageant des idéaux nobiliaires. La bourgeoisie cherche à monter dans la noblesse. Donc il y a une crise de la société d'ordre, crise de la noblesse en particulier au XVIIIe siècle. Mais il n'y a pas en effet de crise économique, sauf à la fin du règne de Louis XVI, en 1788-1789, des récoltes désastreuses, avec un signe inquiétant d'une démographie assez, non pas galopante, mais assez forte. Donc c'est cette conjonction de la crise sociopolitique qui se manifeste pendant tout le règne de Louis XV et le règne de Louis XVI, à une crise politique, dont une crise économique, en 1788, très mauvaise récolte, 1789, et à une crise financière, la crise financière étant née de la guerre d'Amérique, donc à partir de 1783, à la fin de la guerre d'Amérique, enfin elle avait commencé un petit peu avant. Mais pendant tout le temps de la guerre d'Amérique, on vivait dans l'euphorie, on finançait la guerre d'Amérique qui a coûté à peu près un milliard de livres, on la finançait par l'emprunt. C'était la politique un peu folle de Necker, qui pensait que lui, banquier genevois, il arriverait à trouver des financements très conséquents, sans recourir à l'emprunt. Et puis le jour où, en 1783, après le traité de Versailles, il a fallu régler la note, rembourser les emprunts, et qu'on a voulu augmenter les impôts, le peuple n'a pas compris que on puisse augmenter la fiscalité alors qu'on était en paix.
La guerre d'Amérique vraiment est un élément majeur dans
c'est, encore une fois, c'est la conjonction de ces trois éléments. Grande crise sociopolitique pendant le règne, crise économique à la fin du règne, et puis crise financière. La crise financière est importante, elle est très importante sur le plan conjoncturel. Quand nous voyons l'Église de France, qui est la première puissance financière, qui est un ordre extrêmement puissant aux mains de la haute aristocratie, tous les évêques sont nobles du temps de Louis XVI. Quand nous voyons cette Église refuser de donner à l'appel du pouvoir un don gratuit de quelques millions de livres pour éviter la banqueroute, et faisant des remontrances au pouvoir royal, disant que le pouvoir n'a qu'à convoquer les états généraux, et que nous voyons cette même Église quelques mois plus tard proposer 100 millions de livres pour éviter la nationalisation des biens du clergé. Nous voyons là un refus de privilégier. Voilà, il y en a le cœur de la crise. C'est le refus des privilégiés, l'aveuglement complet de toute une société face à une crise qui aurait pu probablement être surmontée sur le plan financier.
Est-ce que le roi est seul?
Le roi est seul. Le roi est seul.
Il n'a pas de soutien.
Il a eu quelques conseillers, il a peu d'amis, et il a essayé de... Le roi est un roi réformiste. On dit souvent, Louis XVI, c'est un roi prisonnier de son éducation. Alors c'est vrai qu'il a reçu une éducation très traditionnaliste, étroite, dévote d'un milieu. Son père, Louis Ferdinand, était fortement opposé à la politique de son propre père, Louis XV, et très marqué par le courant anti-philosophique. Et Louis XVI a été élevé par le duc de La Vauguyon, notamment, dans cet état d'esprit. Mais on peut dire qu'il s'en est dégagé, et c'est ce qui fait que, contrairement à ce que disait Bainville, c'est un roi intelligent, qui a appris les langues étrangères, qui était un roi scientifique, avait une grande capacité de compréhension.
Il s'intéresse beaucoup aux expéditions.
C'est lui qui a en partie rédigé l'expédition de La Pérouse, les instructions de La Pérouse. Vraiment, alors, et sur le plan de la politique étrangère aussi, il a de grandes capacités, même il sera capable d'en remontrer à Vergennes, une grande connaissance notamment de la politique anglaise. Il lisait les postes anglais, il avait appris l'anglais lui-même, et il était tout à fait capable de comprendre tout ça. Mais il s'est heurté à une société bloquée. Il a voulu réformer. C'est un roi réformateur, contrairement à ce qu'on pense. Et il s'est heurté à une société bloquée.
Alors, nous allons revenir sur ce mouvement réformateur que vous appelez la Révolution royale, où on verra que les conservateurs ne sont pas ceux que l'on croit. C'est ce que je vous propose de voir, Jean-Christian Petit-Fils, après une deuxième pause. À tout de suite.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'une biographie consacrée à Louis XVI, une biographie parue aux éditions Perrin. Nous évoquons, Jean-Christian Petit-Fils, la chute de la monarchie, les causes et les faits entourant cette chute, la chute de Louis XVI. Nous disions que Louis XVI était, contrairement aux idées reçues, un roi réformateur. Et il a voulu mettre en œuvre, avec Calonne, une révolution, la révolution royale. Et cette révolution royale, elle date de 1786. Et au fond, vous glissez sur la chronologie et vous dites que le véritable commencement de la révolution française, ce n'est pas 1789, c'est 1786.
Voilà, ça commence par la Révolution royale, et cette Révolution royale va se trouver rejetée par une contre-révolution aristocratique menée par la haute noblesse de la cour, encore une fois, et par les parlements, qui sont représentés par la noblesse d'Europe. Ça commence par le plan Calonne, en effet. Calonne, qui est contrôleur général depuis 1783, ancien intendant de Flandre et d'Artois, donc un homme de la monarchie administrative, lui aussi, qui a, pendant quelques années, voulu donner l'illusion aux financiers. C'est une sorte de Fouquet du XVIIIe siècle, Calonne, que l'argent était facile, il coulait à flot.
Il est très optimiste.
Et c'est un homme très, très optimiste par nature. Et probablement, il sera victime aussi de son optimisme. Calonne se rend compte qu'on court au désastre sur le plan financier à cause de la politique un peu folle de son prédécesseur, Necker, qui a emprunté, alors qu'on pouvait à ce moment-là, compte tenu de l'enthousiasme qu'il y avait à financer la guerre d'Amérique, qui a mené cette politique d'emprunt, alors qu'on aurait très bien pu augmenter les impôts parce qu'il y a un état d'esprit qui s'accommode parfaitement à ce moment-là de cette guerre. Il y a une sorte de nationalisme qui est profond dans la société française dans ce temps.
L'aliénation naît vraiment au XVIIIe siècle et c'est un élément majeur, en fait, du mouvement révolutionnaire, puisque la nation va se désolidariser du roi.
Absolument. Absolument. Mais tant que le roi est en phase avec ce patriotisme ardent qui bouillonne un peu partout, eh bien, le roi est populaire. Et donc, le roi était très populaire pendant la guerre d'Amérique. Donc, c'était vraiment le bon moment, d'une part, d'augmenter probablement les impôts, le 20e au moins, ce qu'on appelait les différents 20e, il y en avait deux ou un troisième 20e, et d'éviter cette politique d'emprunt. Mais Necker a voulu la faciliter, on emprunte, et après, évidemment, il faut rembourser. Et donc, le déficit se creuse, et Calonne s'aperçoit, en 1786, que le déficit est de 120, 130 millions sur à peu près 480 millions de recettes. On a déjà dépensé d'avance 250 millions des recettes futures, 650 millions d'emprunts à rembourser à brève échéance. il n'y a plus moyen de continuer. Donc la seule manière d'avancer, seule manière d'éviter la banqueroute, eh bien, c'est de faire une révolution royale, c'est-à-dire une rationalisation de l'État, d'abolir les barrières douanières intérieures, d'établir une liberté de commerce des grains, de créer une banque nationale. Il y avait déjà un embryon de banque nationale avec la caisse d'escompte créée par Turgot. Donc une vraie banque nationale qui permettrait de faire des avances de trésorerie à l'État, de créer des assemblées provinciales pour aider l'intendant, permettre aux administrés de participer à la répartition des impôts, et puis surtout d'instaurer un impôt payable en nature, qu'on appelle la subvention territoriale, qui est une réminiscence de la dîme royale de Vauban, cet impôt révolutionnaire, et révolutionnaire en ce sens que tout le monde, le clergé, la noblesse, tout le monde s'y trouverait assujetti.
C'est une nuit du 4 août avant la lettre ?
En quelque sorte. En quelque sorte. Donc c'est une rationalisation de l'État, une suppression des privilèges indus, de tous les abus. Et évidemment, Calonne, sachant parfaitement que le Parlement de Paris s'opposerait à ce plan révolutionnaire, Calonne d'abord donc persuade le roi et Louis XVI est profondément convaincu de la nécessité de cette réforme. Il va s'investir pleinement dans cette réforme. L'idée est donc de convoquer une sorte de, convoquer une assemblée des notables. C'est un système qui a déjà fonctionné du temps de Louis XIII et de Richelieu. Ces notables qu'on choisirait volontairement, au fond, indiqueraient la bonne voie et faciliteraient l'enregistrement au Parlement de ces différentes mesures. Malheureusement, les notables commencent à tomber des nues quand on leur parle de déficit, exigent des comptes et demandent à l'État de faire des efforts de compression de ses dépenses. Et on commence à parler d'États généraux, de réunion des États généraux. Bref, les privilégiés rejettent violemment le plan de Calonne. Et le roi se trouve contraint, malgré l'admiration qu'il avait pour cet homme, eh bien, de renvoyer Calonne.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à un moment, Louis XVI veut en appeler au peuple. Il veut en quelque sorte aller, et c'est en cela qu'il est révolutionnaire, il veut aller vers le peuple, au-delà des privilèges des uns et des autres.
Exactement, c'est au moment, un petit peu avant le renvoi de Calonne, il publie un avertissement, qui est un texte, une sorte de préface des différentes mesures proposées dans le plan de Calonne, qui a été écrit par l'avocat Gerbier, mais que Louis XVI a probablement revu, et de sa propre main, il a fait des corrections. Et on essaye de montrer au peuple que, finalement, on ne veut que l'intérêt du peuple. Il y a un front, encore une fois, une sorte de front patriotique très puissant entre l'aristocratie, la bourgeoisie et le peuple, contre le pouvoir. Et justement, Louis XVI et Calonne habilement essayent de dissocier ce front pour leur dire, attendez, vous trompez complètement au tiers-État. Ils s'adressent au tiers-État. Non, vous trompez, vous faites corps avec la haute aristocratie, alors qu'en fait, elle ne défend que ses privilèges. Mais la vraie alliance est celle du peuple et du roi. Et donc, il y a une tentative de dissociation de ce front patriotique qui s'oppose au pouvoir royal. Malheureusement, l'appel de cette brochure qui est diffusée massivement, qui est présentée dans les églises, lue dans les églises, eh bien, tombe à plat. Et donc, Louis XVI, à la suite de ça, est obligé de renvoyer Calonne et de passer à une autre expérience sous la pression de la reine, en appelant l'archevêque de Toulouse, le Ménie de Brienne, qui lui aussi, pressé et poussé par les circonstances, va essayer de faire du calonisme sans Calonne, un calonisme amendé, qui lui-même aussi va se trouver rejeté par les parlements. À nouveau, Louis XVI va être obligé va chercher à casser ces parlements, ces malheureux parlements qu'il avait rappelés malencontreusement en 1774, au début de son règne, eh bien, on va essayer de faire une réforme avec la réforme Lamoignon, le garde des Sceaux, nouveau garde des Sceaux. C'est une des pièces aussi de la Révolution royale, mais c'est la dernière pièce qui va tomber en lambeaux. Et devant la banqueroute de l'État, eh bien, il faudra en venir aux États généraux.
Peut-on parler d'une fatalité au début, dans le chapitre 4 de votre ouvrage, vous dites « Le brutal surgissement de l'événement révolutionnaire n'a obéi à aucune nécessité inscrite dans la longue durée. Il n'y a pas de fatalisme. Louis XVI aurait pu malgré tout agir ?»
Oui, je pense que même en mai 89, il y avait une possibilité d'entente avec les États généraux. Louis XVI n'était pas très chaud pour convoquer les États généraux, c'est le moins qu'on puisse dire. La monarchie avait une expérience assez désastreuse de ce corps qui rassemblait la nation encore depuis le Moyen-Âge jusqu'aux derniers États généraux de 1614. Cela étant, il y avait moyen, en se présentant devant la nation ainsi constituée, et en leur présentant un programme, de créer une sorte de compromis d'une monarchie à l'anglaise, si vous voulez, de la fameuse Glorious Revolution de 1688. Donc un siècle avant, en Angleterre, on était arrivé à un compromis entre le pouvoir royal et puis une représentation de la nation avec l'habeas corpus, avec les libertés. Cette révolution anglaise s'était passée sans effusion de sang. Il y avait un moyen. Malheureusement, il s'est passé une sorte de tragédie, qui est ce que j'appelle la tragédie centrale du règne de Louis XVI. C'est le silence du pouvoir. Pour quelle raison ? D'abord parce que Necker était revenu aux affaires, et on avait rappelé le magicien Necker, parce que il était soutenu par la foule, bien qu'il fût très très conservateur lui-même et très proche des milieux aristocratiques. On avait rappelé Necker pour remettre à flot les finances et pour laisser les États généraux se dérouler normalement. Et Necker n'était pas du tout partisan de venir avec un programme de réforme. C'était pas un réformateur, Necker, contrairement à Calonne, contrairement à Turgot. Donc le pouvoir est silencieux. Et puis il y a une autre tragédie, qui est une tragédie intime, qui se passe à ce moment-là, c'est la maladie et l'agonie du dauphin, du premier dauphin, fils de Louis XVI, qui meurt le 4 juin 1789. Et le tiers-État, à ce moment-là, cherche à entrer en contact avec le roi. Bailly, qui est le représentant, le président de l'Assemblée du Tiers, demande à plusieurs reprises à rencontrer Louis XVI. L'entourage de Louis XVI, en particulier le garde des Sceaux Barentin, fait barrage, empêche Bailly de rencontrer Louis XVI. Et quand Bailly insiste, au moment de la mort tragique du petit dauphin qui meurt de tuberculose, Louis XVI a ce mot en disant « N'y a-t-il donc pas un père dans cette assemblée ?» Donc il souffre, et il souffre même de l'insistance à ce qu'on puisse le rencontrer.
Oui, d'autant plus que vous expliquez très bien que la mort d'un dauphin sous la monarchie a toujours provoqué un élan de sympathie, de solidarité. Là il n'y a rien.
Là, il n'y a rien. Marie-Antoinette souffre beaucoup. Marie-Antoinette a souffert de la violence de l'opposition des parlements et de la noblesse. Et elle a dit à ce moment-là, elle avait dit quelques mois plus tôt, « Je suis la reine du tiers ». Ce qu'on oublie souvent. Et donc il y a une volonté du pouvoir royal et du tiers état de s'allier, mais qui a échoué assez piteusement et tragiquement en mai-juin 89. Et faut dire que à partir de ce moment-là, le 17 juin, eh bien voyant l'inertie du pouvoir royal, voyant la noblesse contester l'élection d'un certain nombre de députés, eh bien le tiers état va prendre le pouvoir en quelque sorte devant le vide provoqué par cette absence de politique. Le 17 juin, le tiers état se proclame assemblée nationale. Il y a quelques députés du clergé et la noblesse qui les rejoignent. Et le 20 juin, c'est le serment du jeu de paume. Le 9 juillet, c'est l'Assemblée qui se proclame Assemblée nationale constituante. Et là, on peut dire que la révolution est faite. C'est une révolution gigantesque. C'est un déplacement de souveraineté. On passe d'une souveraineté royale, donc détenu par une seule personne, mais avec une société de corps qui, évidemment, en limite les effets, à une souveraineté d'une assemblée qui se proclame détentrice de l'autorité, de la puissance légitime de la nation tout entière, et qui va donc rédiger une constitution. Le roi se trouve en quelque sorte dépossédé de toutes ses prérogatives et n'est plus qu'un fonctionnaire en attente d'affectation, en attente de sa feuille de route que va constituer la nouvelle constitution, celle qui sera rédigée en 1791.
Dans ce mouvement révolutionnaire, vous citez l'historien Timothy Tackett, vous dites que c'est le refus du compromis de la noblesse qui pousse le tiers à agir dans un sens révolutionnaire.
Oui, voilà. Alors cette révolution, donc on peut dire, et Timothy Tackett l'a très bien montré, que jusqu'au mai, début juin 89, il y avait une possibilité d'entente. C'est la noblesse qui a refusé de vérifier, de valider l'élection des députés, comme toute assemblée le faisait à ce moment-là, pouvait le faire à ce moment-là, qui a permis au tiers de se considérer comme seul et unique détenteur de la souveraineté royale, qui a fait ses propres validations de députés. Il se trouve qu'en plus, au menu plaisir, c'était elle qui continuait à occuper la salle centrale, alors que la noblesse et le clergé, géographiquement, allaient se réunir dans des salles différentes. Donc la noblesse, le tiers état s'est considéré comme la nation tout entière. Et donc on connaît le fameux discours de Sieyès, la brochure de Sieyès, qu'est-ce que le tiers état, qui était sorti quelques mois auparavant. Là, il y a eu donc un grand élan national, mais qui a évacué complètement la monarchie. Alors c'est vrai que la monarchie ne disparaît qu'en 1792, mais elle est déjà virtuellement morte en 1789.
Jean-Christian Petit-Fils, nous nous retrouvons dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Je reçois Jean-Christian Petit-Fils et nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à la chute de la monarchie avec la description du processus révolutionnaire, l'intervention bien évidemment des états généraux, et vous présenter, Jean-Christian Petit-Fils, cette désolidarisation en quelque sorte de la souveraineté royale d'un côté, de la souveraineté nationale de l'autre. Alors je vous cite, vous dites, page 675 de votre livre, « Il est permis de penser que tous les maux ultérieurs de la Révolution, les désordres, la violence sauvage et collective, le déchirement tragique des factions, ont trouvé leur origine dans cette appropriation de la souveraineté sans partage par une assemblée élue. » Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on affirmer en fait que le mouvement révolutionnaire part de cette proclamation de l'Assemblée nationale?
L'appropriation par la souveraineté, c'est un acte inouï et unique d'une très grande importance, parce que vous le comprenez bien, dans l'ancien système, nous avions un roi qui était souverain, détenteur de la souveraineté, mais qui se trouvait en but à une opposition et en but aussi à enfin devant respecter les lois fondamentales du royaume, devant respecter la morale chrétienne. Il était donc souverain, mais en fait un souverain limité. L'absolutisme, c'est un système en réalité de monarchie limitée. C'est un peu paradoxal de le dire, mais c'est ainsi. Là, nous nous trouvons, l'Assemblée se trouve détenir la plénitude du pouvoir. Et quand elle voudra, par exemple, modifier les rapports avec l'Église, certains députés diront, bien que nous ayons le pouvoir de modifier la religion, nous ne le ferons pas. Nous simplement nous modifierons les règlements et le système ecclésiastique, mais nous avons le droit puisque nous sommes Assemblée nationale et que nous détenons la plénitude du pouvoir, nous avons le droit de modifier le dogme. C'est tout de même assez ahurissant quand on pense à cela.
C'est le commencement de la théorie de la tabula rasa, en fait.
C'est la tabula rasa, c'est le fait que l'Assemblée va vouloir reconstituer tous les pouvoirs autour d'une souveraineté législative. Et donc, tout appartient à la loi, tout va être décidé, tout va être voté par l'Assemblée. Alors, c'est vrai que dans le processus révolutionnaire, en 1789, en 1790, notamment donc avec cette constituante et puis ultérieurement avec la législative, il y a une volonté d'instaurer un système, le roi, la loi, une nouvelle constitution, un nouvel état de droit, on peut dire. Il y a une deuxième révolution, il y a une révolution à l'intérieur de la révolution qui va se produire et qui va avoir toutes ses conséquences au 10 août, c'est une révolution menée par le courant jacobin, mené par les sociétés populaires, qui contestent la légitimité de cette souveraineté nationale au nom d'une souveraineté populaire, spontanée, violente, qui est la souveraineté de la rue, et encore en fait qui est la souveraineté décidée par une petite minorité prétendant parler au nom du peuple.
C'est la troisième grande idée après la remise en cause de la théorie tocquevillienne, après le fait de faire commencer la révolution en 1786, vous développez une théorie sur le commencement de la terreur dès 1792, dès le fameux 10 août 1792.
Ah oui, mais ça, je ne suis pas probablement le seul à l'avoir dit. Là, donc, ce sont vraiment les forces populaires qui, à partir de la journée du 20 juin 92, pour protester contre le veto sur les prêtres réfractaires, sur le camp fédéré que Louis XVI, en respectant parfaitement la Constitution, parce que Louis XVI a accepté finalement cette première révolution. Il n'était pas très joyeux d'abandonner une partie de ses pouvoirs. Il a accepté en disant on arrivera à rééquilibrer. Il voulait un pouvoir fort, un pouvoir exécutif fort et une assemblée, une représentation de la nation. Il était rentré dans ce système révolutionnaire, mais il considérait qu'il était quand même le détenteur, lui, le légitime détenteur de la souveraineté. Mais il acceptait une représentation et il acceptait un vote du budget, il acceptait véritablement un système, non pas démocratique, mais de représentation populaire. Eh bien, nous avons donc le refus, en fait, au sein de la législative, de donner le moindre pouvoir au roi. On lui a donné, en principe, un droit de veto. Dès lors que le roi veut l'exercer librement, et il en a la parfaite possibilité, eh bien, aussitôt, il y a des mouvements populaires, on envahit les Tuileries le 20 juin 92, on menace la reine, on veut étrangler la reine, on avait déjà voulu le faire en octobre 89, avec le retour du roi à Paris. Vraiment, là, il y a des forces populaires qui veulent détruire cette constitution monarchique, cette monarchie constitutionnelle, pour instaurer un pouvoir populaire dirigé en fait par les clubs. Mais dès le départ, il y a un lien entre ces deux révolutions. C'est évidemment cette souveraineté qui est un problème, un principe métaphysique, si vous voulez, qu'on a et dont on veut s'emparer. Et en fait, il y a une lutte entre trois souverainetés et trois légitimités. C'est la souveraineté monarchique et donc la légitimité royale qui va disparaître dans la tourmente révolutionnaire, la souveraineté nationale qui se trouve donc incarnée dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée donc des élus du peuple, et puis cette souveraineté populaire qui va s'opposer. Et donc les deux derniers, on va assister à une lutte entre ces deux les tenants de ces deux principes, ces deux révolutions. Mais on arrive donc très vite avec la deuxième révolution en août 92 à ce qu'on a appelé la démocratie totalitaire. Des anglo-saxons ont appelé la démocratie totalitaire. C'est la Commune de Paris qui domine, c'est Robespierre qui tire les ficelles par derrière.
Alors, nous arrivons, et malheureusement, au terme de cette émission. Il y a, pour toutes ces raisons, un sens politique au régicide, et vous décrivez parfaitement bien ce sens politique. Quel est-il ?
Ah ben, c'est la volonté de détruire les deux corps du roi, en quelque sorte, non seulement le corps physique de ce souverain malheureux de la Constitution de 1791, mais aussi le corps mystique de toute la monarchie de l'Ancien Régime. Et donc là, c'est pas simplement un simple meurtre d'un roi, c'est pas Ravaillac tuant Henri IV ou Jacques Clément tuant Henri III.
Il fallait une cérémonie.
C'est une cérémonie, c'est le contraire du cette sorte de meurtre collectif avec un découronnement solennel qui se place de la Révolution, donc place de la Concorde aujourd'hui, avec une grande mise en scène, avec un procès naturellement bâclé et totalement inique. Mais un des députés disait: si Louis XVI est innocent, nous sommes tous rebelles. Et ça montre bien que cette révolution du 10 août, c'est une révolution qui a liquidé un système politique qu'on avait mis en place en 89, qu'on avait commencé à mettre en place, et qui est déjà lui-même contesté. Donc le roi condamné à mort, à une voix de majorité, on le sait, eh bien c'est la liquidation de tout un passé. Et il y aura même d'autres prolongements. Il y aura le meurtre à petit feu du petit Louis XVII. Il y aura cette cérémonie macabre à Saint-Denis où on va vider tous les tombeaux royaux. Tout cela procède du même de la même volonté de d'effacer l'histoire.
Alors vous terminez votre ouvrage par une question, et c'est une question importante parce que chez Louis XVI une conversion religieuse. Bon, il y avait certes son éducation, mais plus le temps avance, plus l'étau se resserre contre lui, plus il se convertit et plus il remet son sort à Dieu. Et vous posez la question de votre ouvrage, vous dites « Reste une dernière énigme, Louis est-il mort en chrétien fidèle ou en roi très chrétien ?» Vous apportez une réponse à cette question ?
C'est difficile à dire. Juste avant de mourir, il a prononcé ces paroles en disant: « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Alors, à partir de là, que penser ? Il y a ce magnifique testament qu'il a écrit le 25 décembre 92, qui est le pardon aussi aux ennemis. Est-ce que c'est le testament d'un roi ? C'est celui assurément d'un très grand chrétien, d'un homme qui s'est élevé progressivement. En effet, c'était au départ un chrétien très très honnête, qui n'aimait pas beaucoup les prêtres. À un moment donné, quand on voulait lui imposer Monseigneur l'aumônier de Brienne, il disait « ni nécraille, ni prêtraille ». Il était assez anticlérical, mais au fur et à mesure que le temps part, au fur et à mesure qu'il a des épreuves qu'il a subies, eh bien, on sent chez cet homme une grande élévation d'âme. Mais il y a encore le grand mystère de sa propre personnalité. Est-il mort en roi ou simplement en chrétien ? Je n'ai pas vraiment la réponse.
Le roi restera taciturne ?
Voilà.
Jean-Christian Petit-Fils, je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro pour nous parler donc de la chute de la monarchie. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier un ouvrage, Louis XVI, une biographie monumentale de plus de 1000 pages que je conseille vraiment à nos auditeurs parce que elle se lit très très bien et vous revenez sur tout ce 18e siècle très controversé en apportant de nombreux éléments et en apportant notamment cette fameuse thèse qui va à l'encontre des idées tocquevilliennes en cette année de bicentenaire de la naissance de Tocqueville, ça ne pouvait pas tomber mieux.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.